Donc les pharisiens, sont, de ce point de vue-là, sont en phase avec le peuple parce qu'ils reçoivent eux-mêmes de cette communauté, de ce qui a vécu dans la communauté, quelque chose de plus que l'Écriture, qui évidemment ne va pas contredire l'Écriture. On pourra parfois même trouver dans l'Écriture des appuis, non pas des preuves, mais des choses qui vous disent « mais oui, il y a ça aussi dans l'Écriture ». Mais vous voyez qu'il y a une créativité qui se fait dans la communauté, hein, qui se fait et qui continue. Alors, le suivant, là, voilà, quelques exemples. Hein. Essayez de trouver la solution. 28, voilà. Attends, c'est un peu avant, là. Oui, c'est ça, oui. Hillel, qui c'est ce monsieur-là, Hillel. Tous les Juifs le connaissent, évidemment. Hein. Hillel et Shammai, c'était deux collègues. On dit qu'ils se chamaillaient aussi. Hillel est mort à peu près au moment où le Christ est né. Vous voyez, donc c'est un chage avec Shammai, d'ailleurs, qui précède la venue du Christ. Alors, il a un problème. C'est un jour de Pâques. C'est la veille, c'est plutôt la veille du jour de Pâques, le 14 Nissan. Et Pâques sera le lendemain, mais ce jour de Pâques, on est auprès du temple, et les gens sont là, ils vont arriver souvent en plusieurs étapes, parce qu'il y a beaucoup de monde, avec leurs animaux, moutons ou brebis, ou je ne sais pas, pour les sacrifier dans le temple, et après retourner à la maison, ensuite faire le repas pascal dans la joie et dans la nuit. Alors, il est avec des gens qui viennent de Babylonie, qui disent, mais attends, c'est un jour de Shabbat, ça ne marche pas, on ne va pas pouvoir faire ça. Parce que quand même, le Shabbat, c'est plus important que Pâques, ça importe. Et Hillel cherche à leur prouver, par des règles d'exégèse qui avaient cours à l'époque, mais ça ne marche pas, ils ne sont toujours pas d'accord. Finalement, il leur dit, mais finalement, moi, Hillel, j'ai reçu de mes maîtres, me coupe l'ami en hébreu, j'ai reçu de mes maîtres la tradition selon laquelle la Pâque l'emporte sur le Shabbat. Donc, ils vont pouvoir faire, même en infreignant un petit peu le Shabbat, ils vont pouvoir faire ça. Donc, on peut. Ah, alors là, si c'est fait, si c'est la communauté qui fait ça, on a l'habitude de le faire, si c'est porté par l'ensemble, par la communauté, eux qui sont un peu rigoureux, ils sont d'accord. Si c'est la communauté, on se plie, ben voilà, tout le monde fait comme ça, eh bien, on reçoit cette pratique, on ne va pas se séparer, hein, c'est l'ensemble. Et, alors, il reste un petit problème quand même. Il va falloir entrer dans le temple, ils arrivent par trois étapes, il y a du monde, on dit qu'ils étaient 100 000, j'en sais rien, mais vraiment beaucoup, le jour de Pâques. Alors, comment ils vont faire pour entrer leur matériel avec les animaux? Ils vont sûrement porter des choses. Question. Et puis, Hillel leur dit, écoutez, je ne me rappelle plus, mais laissez-les trouver la solution, l'Esprit Saint est sur eux. L'Esprit Saint est sur eux. C'est ça qui est important. S'ils ne sont pas prophètes, ils sont fils de prophètes. Ils savent comment réaliser la Torah. Ils se débrouilleront. Ils savent faire. Alors, l'explication est assez un peu simple. Hein. C'est, que firent les Israélites à cette heure? Celui dont la Pâque était un agneau enfuit le couteau dans sa laine. Celui dont la Pâque était un chevreau attacha le couteau entre ses cornes. Ils apportèrent donc couteau et Pâque au sanctuaire. C'est-à-dire, c'est les animaux qui portent ce qui va les tuer. Eux, ils ne portent rien, ils rentrent tranquilles. Ils ont trouvé. Bon, ça, c'est tout petit, hein, vous direz. C'est aussi ces Juifs, c'est très concret. Mais surtout, l'Esprit Saint est sur eux. S'ils ne sont pas prophètes, ils sont fils de prophètes. Ils sauront faire. Si vous ne savez pas vous, regardez ce qu'ils font. Vous voyez? Et ça, vraiment, c'est le sens de la Torah, hein. C'est pas simplement l'écriture, bien sûr que l'écriture est au centre, elle est au centre, on la respecte, on la lit, on l'épluche. Mais il y a tout le reste. Et ce qui est important, c'est la capacité justement de la communauté de donner sens à cette écriture, à cette tradition. C'est ce qu'on appelle la Torah orale. Il y a la Torah écrite, hein, sur la bouche. Pardon, la Torah écrite, c'est écrite, hein, puis vous avez la Torah orale, okay, par la bouche, hein, orale. Et Moïse reçoit au Sinaï, à la source première, il reçoit tout cela de la bouche de la puissance, dans une relation de personne à personne, on peut dire. Et il va transmettre de la même manière. de façon orale, d'abord. Après tout, l'écrit, on l'a, il n'y a qu'à le donner un livre. On fait parfois des transmissions de la Bible dans des cérémonies, c'est très bien, on transmet la Bible, mais ce n'est pas difficile, le livre, tu le prends. Mais c'est le sens qu'il faut donner, évidemment. Alors, maintenant, quelques échos de cette manière de comprendre, de lire l'écriture. Alors, voyons, oui, voilà. Hillel, donc 1er siècle avant notre ère. Maintenant, on va se trouver avec un certain rabbi du 2e siècle, vous voyez, 135-170. Et on trouve ça donc dans les grands corpus de, les grands corpus de du judaïsme. Ici, c'est le Talmud. Bon. Qu'un certain rabbi Simon ben Eleazar dit « Celui qui se tient auprès d'un mourant à l'heure où celui-ci rend son âme, il doit déchirer ses vêtements. Pourquoi ? Parce que cela ressemble à un rouleau de la Torah qui est brûlé. Celui qui meurt ressemble à un rouleau de la Torah qui est brûlé. Un rouleau de l'écriture qui est brûlé. Donc il est parole vivante, vous voyez ? Et Rashi, le grand maître de Troyes, au XIe siècle, cette fois ça continue, explique ce passage du Talmud. Il dit, oui, celui qui voit un rouleau de la Torah qui est brûlé doit déchirer ses vêtements. Et l'âme d'Israël qui est enlevée ressemble à cela, car il n'y a pas de personne en Israël qui soit bide et qui n'ait ni Torah ni commandement. Donc, la vocation de tout juif est de devenir en quelque sorte une Torah vivante. Et les juifs que je rencontre, qu'on connaît, ne disent pas le contraire. Être une Torah vivante, expression vivante de la parole. Alors pensons à l'évangéliste Jean, qui écrit à la fin du 1er siècle, et qui n'a pas peur de montrer le Christ comme parole de Dieu. Mais il n'a pas peur de le faire, pourquoi ? Parce que c'est déjà écrit dans la tradition. Donc Jésus accomplit une tradition juive, en plénitude, de façon transcendante, c'est d'accord, mais c'est quand même une tradition juive qu'il exprime. Et bien sûr, s'il le fait, il exprime la tradition d'Israël, mais il nous la transfère aussi. Et nous avons la prétention, il faut quand même l'avoir, d'être chacun d'entre nous une Torah vivante, une parole de Dieu vivante. Encore que faut-il la rendre vivante et le faire. Et pour cela, ça suppose, comme Moïse, d'être ouvert à cette transcendance infinie. Et ne pas nous prendre pour la source, pour les premiers. Alors, quelques textes qui vont dans ce sens-là, qui nous disent ça. C'est à propos d'un psaume. On traduit un psaume. On est ici, on est au, vous voyez, au 4e siècle ou 3e. Un certain Abaye qui dit ça. Voici, il dit, à cause de l'écriture, il veut établir quelque chose à partir d'une écriture. Dieu a dit une chose et j'en ai entendu deux. Dieu a dit une parole, c'est le psaume 62, verset 12. Si vous allez voir dans nos traductions, ils passent sur la difficulté. Ils disent Dieu a dit ceci, ça ressort. Mais il y a une contradiction. Et j'en ai entendu deux. Alors, c'est pour prouver que. On veut prouver que. À partir. Disons, si vous avez deux maîtres qui vont trouver une solution à un problème à partir de deux passages d'écriture différents. Mais ils auront la même solution, la même chose. Eh bien, il y en a un des deux qui se trompe, parce que si Dieu dit deux paroles dans l'écriture, ce n'est pas les mêmes, ils ne se répètent pas. Elles sont différentes. Mais plus que ça, on va élargir, et on va dire, dans une école de Rabbi Ishmael du 2e siècle, une école d'interprétation très fondamentale, importante, ma parole n'est-elle pas comme un feu, parole du Seigneur, comme un marteau qui pulvérise le roc ? C'est en Jérémie. Comme un marteau fait que le rocher se partage en plusieurs étincelles, ainsi une seule écriture donne plusieurs sens. Pourquoi ? J'en ai entendu deux un peu plus haut. Pourquoi ? Parce que la puissance est à Dieu. Dieu peut tout dire en une parole, mais moi, évidemment, cette parole est infinie, a une capacité infinie, je ne vais jamais tout saisir. Mais je vais saisir tel ou tel sens, pas plus, ou même un seul. Et pourtant, Cette parole, elle est comme un marteau qui frappe le roc et qui fait des étincelles, qui fait une sorte de feu d'artifice, donc une multiplicité d'étincelles. Alors, comment profiter de toutes ces étincelles? Eh bien, c'est dans la mesure où il y aura des récepteurs qui recevront cette parole, chacun de façon unique. Ça sera une étincelle unique, qui ne dira pas la même chose que les autres, mais on va s'enrichir de cette parole de Dieu dans la mesure où il y aura des gens qui l'écouteront, qui la transmettront. Alors, il s'agira d'une part d'être à l'écoute de cette parole pour soi-même, transcendante, j'en reçois un sens, mais en même temps, je sais que ceux qui sont à côté de moi la reçoivent aussi et de façon différente de moi. Donc, on va être obligé de s'écouter les uns les autres pour s'enrichir. Premièrement, moi, j'ai quelque chose à dire, parce que si je ne le dis pas, eh bien, personne ne saura, et c'est unique. Mais alors, en même temps, évidemment, si je n'écoute pas les autres, c'est aussi catastrophique. Ça ne va pas. Donc, Dieu a dit une parole, et j'en ai entendu deux. Élargissons un petit peu, toujours. On va se référer toujours à cette transcendance divine, hein, transcendance divine qui s'ouvre au Sinaï, pour nous, et à laquelle Jésus est tourné, de laquelle il est dépendant. Alors, c'est dans un cadre où on raconte aux témoins d'un procès capital. Donc avec peine de mort, c'est tout à fait théorique, parce qu'on n'a pas d'exemple en réalité de ces mises à mort, de ces procès d'exécution. Mais on est obligé de traiter de la chose dans la vie d'Israël, parce qu'il y a un jugement, il y a des jugements, etc., ça peut arriver. Donc, on va dire aux témoins, attention, faites attention à votre témoignage, car si vous faites un faux témoignage, ça peut être terrible. En effet, on leur dit qu'Caïn a tué Abel, et qu'est-ce qui se passe? Dieu appelle Caïn et lui dit, qu'as-tu fait? Les sangs de ton frère crient vers moi. Les sangs. C'est Dieu qui dit ça à Caïn, qui a tué son frère. Alors, les sangs. Pourquoi les sangs? C'est un pluriel. D'habitude, on dit le sang. Bon, ça pose pas de question. En fait, on peut très bien, s'il peut être au pluriel. Mais on en profite. On profite de cette particularité de l'écriture, quand on l'interprète. Et oui, il y a un pluriel. Pourquoi? Eh bien, parce que Abel, il est au début de la création, au début de l'histoire. C'est quand même le fils d'Adam, hein, premier, quoi. Eh bien, il avait devant lui, pour l'éternité, une foule de descendants. Et Caïn a supprimé, en tuant Abel, il a supprimé toute une foule, toute une création, tout un monde. Il a supprimé tout un monde. La gravité du meurtre et d'un faux témoignage. Alors, on continue. On continue avec une petite parabole dans ce sens-là, qui a pour but de déclarer, encore une fois, la grandeur du Saint béni soit-il. Je me reporte là-dessus. La grandeur du Saint béni soit-il. Alors, on est à Adam. Hein. Alors, on prend l'exemple d'un homme, d'un roi, qui frappe monnaie. Il bat monnaie, et bien sûr, sur chaque pièce de monnaie, il y aura son effigie. On a même, avec le héros, je crois, on a quelques pièces comme ça. Hein. Il a son effigie. Et puis, évidemment, les pièces de monnaie ont une valeur que si elles sont strictement semblables les unes aux autres. Le moindre défaut exclu. Hein. Donc, c'est vraiment le clonage absolu. Absolu. Eh bien, il en avait du grandeur du Saint béni soit-il que hein, le roi des rois, le Saint béni soit-il, Dieu, on l'appelle comme ça, a frappé tout homme du coin du premier Adam, donc tout homme a cette image de Dieu, comme une pièce, hein, une image de Dieu, et il n'y en a pas deux qui sont semblables. C'est pour ça que chacun doit dire, c'est pour moi que le monde a été créé. Mais chacun peut le dire. Hein. Autrement dit, parmi ces... Alors avec Adam, on passe à toute l'humanité, puisque Adam, c'est à l'origine. Hein. Autrement dit, parmi les 8 milliards d'hommes et de femmes que nous sommes, il n'y en a pas deux qui sont semblables. En plus, tous ceux qui nous ont précédés et qui suivront, hein, chacun est parfaitement unique. Donc, une étincelle de cette vérité. Et tout cela est possible à cause de la grandeur du Saint béni soit-il, à cause de cette référence en laquelle on se met du Dieu transcendant, du Dieu un, et de notre dépendance, de notre réception Écoute Israël, hein, c'est la première chose. C'est ça qui nous sauve, c'est l'écoute, c'est pas la prise de possession, c'est d'abord cette réception qui nous oblige à nous écouter les uns les autres. Voilà.